petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
À chaque fois que nous nous trouvons engagés dans d'inextricables embrouilles qui obscurcissent l'avenir, il y a toujours sur les bas-côtés des espoirs qui nous illuminent. Du moins, est-ce la foi du chrétien, mais aussi l'espérance de tout un chacun. Commençons par les guerres. Les guerres qui semblent avoir une cohérence, car elles se situent en ce moment toutes sur un axe nord-sud du Proche-Orient. L'Ukraine, l'Arménie, Israël et la Palestine. Pourtant, nous avons du mal à discerner des points communs entre toutes ces guerres. Agression russe en Ukraine contre les lois internationales, épuration ethnique des Arméniens dans le Haut-Karabakh, attaque terroriste contre les civils israéliens et bombardement aveugle contre les Palestiniens de Gaza. Et pour une fois, les Occidentaux n'y sont pour pas grand-chose, mais ils n'auront jamais été autant accusés de tous les maux. Ça se joue entre trois puissances régionales néo-impérialistes, la Turquie, la Russie, l'Iran. Et alors là, c'est à n'y rien comprendre. La Turquie est membre de l'OTAN, mais elle est le soutien officiel du Hamas, l'ennemi d'Israël, et protège en Syrie des dizaines de milliers de djihadistes. Bien plus, le Qatar. Le Qatar fournit officiellement des armes au Hamas, qui pourtant entretient aussi ce Qatar de bonnes relations avec Israël, de bonnes relations avec les USA, avec la France. Ça, quand même, il faut le faire. Et comment ne pas être désorienté dans des situations aussi complexes. Soutenons alors peut-être les trois démocraties, Ukraine, Arménie, Israël, contre les trois dictatures, la Russie, l'Azerbaïdjan, le Hamas. Bien, il se trouve d'ailleurs que les trois dictatures sont aussi les trois agresseurs. Mais là, il s'agit d'une lecture à la mode occidentale. Écoutons le Grand Sud, ces pays si remontés contre l'Occident. Ils ont tendance à soutenir le Hamas, la Russie, l'Azerbaïdjan, qui font figure de gentils à leurs yeux. Nous sommes d'autant plus dépités que des raisons profondes historiques animent le ressentiment des pays victimes, des raisons que nous, Occidentaux, n'avons pas toujours en tête de façon bien claire. Alors certes, la Shoah est un génocide qui traumatise les Européens, mais bien sûr encore plus les Juifs européens et mondiaux. Les Palestiniens sont à jamais meurtris par le Nakba, c'est-à-dire l'exode tragique de 700 000 Palestiniens en 1948 lors de la création de l'État d'Israël. En Ukraine, c'est le terrible Holodomor qui taraude les citoyens, à savoir l'extermination par la famine de 4 millions d'Ukrainiens en 1932-33 sur l'ordre de Staline. Et enfin, l'Arménie, elle, souffre du génocide perpétré en 1915 par les Turcs, génocide que la France a reconnu, mais pas la Turquie responsable. Tous ces grands séismes de l'histoire ont façonné les consciences victimaires de tous ces pays qui ont l'impression que tout recommence aujourd'hui. Comment pourrions-nous comprendre, nous, qui n'avons rien vécu de semblable ? On pourrait espérer que Emmanuel Macron, en tant que chef de l'État, puisse définir une ligne claire de la France au Moyen-Orient. Déception, le président est allé d'affirmation en rétropédalage. Le 24 octobre, en présence du Premier ministre Netanyahou, Emmanuel Macron affirme le droit de l'État hébreu de mener, je cite, « une lutte sans merci, mais pas sans règles, contre le Hamas ». Notons que ça ne veut pas dire grand-chose, ça, hein, sans merci, mais pas sans règles. De toute façon, le 10 novembre, M. Macron somme l'État hébreu d'arrêter de tuer des femmes et des bébés. De même, le président annonce qu'il faut mettre en place une coalition régionale et internationale pour lutter contre le Hamas, à la manière de la lutte qui a été menée contre Daesh. Mais sa proposition n'est reprise par personne, et quelques jours plus tard, il ne parle que d'une coalition humanitaire maritime pour aider la population de Gaza. C'est déjà plus du tout la même chose. Parmi les grandes raisons de troubles citoyens, il y a le cas exceptionnel de M. Dupond-Moretti. Tant que celui-ci n'est pas jugé, il est innocent. Mais ce qui est paradoxal est qu'un ministre de la Justice en exercice passe en jugement pour prise illégale d'intérêt. Alors attention au verbiage. Le ministre n'est absolument pas poursuivi pour détournement de fonds. Il n'y a pas d'argent en jeu. Simplement, le parquet lui reproche d'avoir utilisé sa fonction de ministre pour régler des comptes avec des magistrats du temps où M. Dupond-Moretti exerçait comme avocat. Or, le trouble est bien là. Le parquet qui requiert contre Éric Dupond-Moretti, ce parquet a pour chef hiérarchique Éric Dupond-Moretti. Tout est légal, mais rien n'est clair. Le citoyen est à nouveau désorienté. La composition de la Cour de justice de la République est elle aussi spéciale. Elle comprend entre autres 12 juges, députés ou sénateurs, majoritairement d'opposition. Voilà encore une bizarrerie. Que peut-on faire pour reconstruire une logique humaine avant que l'intelligence artificielle ne remplace l'humanité ? Il ne faut pas s'attendre à des révélations surprises. Si elles existaient, on le saurait. Et on ne serait pas emporté par des tornades d'incompréhension. Continuons à essayer de décortiquer les crises, mais regardons peut-être vers d'autres horizons. C'est ainsi que je regarde avec espoir la création par le président Macron, que je viens de critiquer, mais qui n'a pas tout faux, de la création donc de la Cité internationale de langue française dans le château restauré de Villers-Cotterêts, où François Ier, en 1539, a décidé d'imposer l'usage du français dans les actes judiciaires et administratifs. Alors, une cité qui n'est pas un musée du passé, mais un institut du bien-parler aujourd'hui et demain. La langue est l'organisatrice et le vivier de la pensée, comme l'a montré déjà depuis longtemps Émile Benveniste. Une langue exprime une philosophie pleine de nuances, et chaque langue est une richesse de l'humanité, une représentation du monde et de la société. Consolider la langue française et la francophonie, et nous finirons par sauver l'essentiel de nos capacités à comprendre le monde. Encore une fois, ceci peut paraître paradoxal au moment où le ministre de l'Éducation révèle que près de la moitié des élèves de quatrième maîtrisent moins bien la lecture que ce que doit savoir faire un élève de CM2. Justement, nous devons nous enrichir en visant très haut. Je souhaite justement finir cette émission qui se désole d'un monde contradictoire et incompréhensible par l'avènement d'une nouvelle norme juridique internationale claire, une nouvelle construction. Il s'agit d'un élargissement de l'humanité par un élargissement, non pas par un élargissement démographique, mais par une autre compréhension de l'homme qui inclut pour la première fois les proches et lointaines futures générations parmi les sujets de droit. Jusqu'à présent, une personne qui n'est pas encore née n'a aucun droit, hormis le moment de la grossesse où l'avortement n'est plus autorisé. Alors, ceux qui ont des convictions écologiques considèrent depuis longtemps qu'il faut prendre en compte les intérêts des générations futures. Mais cet idéal n'était pas codifié en droit. C'est chose faite depuis le 27 octobre par une décision du Conseil constitutionnel. Je discerne dans cette décision une avancée spirituelle. En effet, ces hommes et femmes, dans 5 ou 10 siècles, ou plus, n'existent pas encore, c'est-à-dire n'existent pas du tout. Et quand même, ils m'interpellent, sans avoir d'existence physique. Ils n'ont d'existence que spirituelle. Esprit devant qui nous avons à répondre de nos actes pour l'éternité.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.